Laisse-toi te faire aimer par le Seigneur. C'est pas mal la phrase qui résume les baptêmes. Parce que quand on regarde ça, par la simplicité des témoignages, on voit la puissance de l'amour de Dieu. Et les témoignages, c'est chaque personne, puis c'est assez étonnant parce que c'est des personnes qui ont des âges différents, puis aujourd'hui, il y avait des baptisés de 14 ans jusqu'à 70 ans et quelques. Il y a quelque chose de fort parce que Dieu se sert de personnes complètement différentes, venant peut-être des fois de pays différents, de familles, de confessions, de foi, de religion, même d'athéisme. Tout le monde était différent, mais ils ont un point en commun, c'est qu'avec leur rencontre avec Jésus-Christ, en s'abandonnant à la croix en disant « Je veux que tu deviennes mon sauveur, je reconnais ton sacrifice », cette même rencontre a changé leur vie et peu importe d'où ils venaient, ils sont devenus sur le même piédestal, le côté où enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu, pardonnés pour ensuite témoigner de leur nouvelle vie. Et ils ont tous le point en commun, c'est de dire « J'ai rencontré Jésus et ma vie a complètement été transformée ». C'est des gens qui, sans doute, des fois ont grandi dans la foi ou c'est des gens qui ont été justement éloignés de la foi par une société parfois qui a vécu des atrocités au nom de la religion. Et je vous le dis, alors qu'on lit la Bible, Dieu condamne celui qui parle en son nom et qui fait des atrocités. Jésus le disait, même dans les évangiles, que celui par qui va venir le scandale, le jugement de Dieu va être donné à lui. Et il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous aime, Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas quelqu'un qui se tient en haut et puis un peu comme un Zeus dans la mythologie qui envoie des éclairs à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un mauvais pas. Au contraire. Non, Jésus, en fait, si tu veux savoir qui est Dieu, il faut que tu regardes à qui est Jésus. Jésus est l'image du Dieu que l'on ne voit pas. Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est lui-même venu en étant homme, 100% homme, mais 100% Dieu. Et quand il est venu sur cette terre, il a vécu une vie parfaite, de 33 ans de vie, il y a 2000 ans. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes, pour que toutes nos addictions, toute la colère que nous avions, toutes les choses que nous vivions puissent être pardonnées et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de fort, parce que quand on entend des témoignages, parfois on dit, il nous donne des détails que normalement, tu racontes pas ça aux gens. Tu racontes pas tes pires situations de vie. Tu racontes pas tes addictions. Et dans une dizaine de baptisés aujourd'hui, des gens racontaient comme quoi ils avaient été addicts à drogue, alcool, sexualité, un petit peu partout. Il y en a qui ont tout essayé, l'ésotérisme, tout ce qui était spirituel, ils l'ont essayé pour découvrir que lorsque Jésus entre dans leur vie, il change tout, il nettoie tout. Et c'est là où l'impact des témoignages, c'est qu'ils n'ont pas honte de dire qui ils étaient parce qu'ils disent « je ne suis plus qui j'étais ». Les souffrances, les blessures que j'ai vécues, Dieu les a guéries. Et maintenant, ce ne sont plus des blessures, en fait, ce sont des cicatrices. C'est pour ça que je peux témoigner de dire, voici qui j'étais, mais celui-là n'est plus vivant. Maintenant, c'est une nouvelle version de moi-même. On ne dit pas que nous devenons parfaits, au contraire. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est juste que nous avons fait confiance à un Dieu qui est parfait, qui maintenant vit en nous et nous aide à progresser. Combien sont reconnaissants pour Dieu qui nous aide à avancer, jour après jour? Parce que parfois, on peut avoir honte de notre passé ou de qui nous sommes. Parfois, on ne veut pas raconter nos histoires parce qu'on se dit « Ah oh, non, ça m'a blessé, ça c'est ma honte. » Ou parfois même, il y a des gens qui pensent que notre vie est belle, elle est magnifique. Et puis, waouh, il y a la gloire, un peu comme un Instagram. Tu montres que les belles choses. Et les gens se disent « Waouh, ce que tu fais, c'est génial. » J'ai vu cette semaine une entrevue de Mike Tyson. C'est un boxeur reconnu, incroyable. C'est un des meilleurs qui a gagné des tournois et tout ça. Et puis, il est connu aussi pour être l'un des plus violents. Il a, si vous vous rappelez, à un moment donné, dans un ring, il a croqué l'oreille d'un de ses opposants. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire ça à la boxe, si jamais vous ne connaissez pas. Et il y a comme, il s'est bâti un côté où il veut gagner des médailles, il veut gagner des trophées, il veut être le plus influent, le boxeur qui a le plus de victoires. Mais voici ce qu'il disait lors d'une entrevue, ça dure 25 secondes, on va le regarder tout de suite. Voici ce qu'il dit.
Look at this stuff. This is history here. Mm. You are history.
This is garbage. I can say, hey, I bled for garbage.
So this is meaningless to
you? No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man.
C'est fou parce qu'il dit, tout ce qu'il a essayé de bâtir dans sa vie, tout ce que les autres voient comme, wow, ça c'est la gloire. C'est l'histoire que tu étais en train de faire. Wow, t'as tellement vécu quelque chose. Il regarde toutes ces médailles qu'il a saignées fort pour les avoir. Il dit, j'ai saigné pour rien. J'ai saigné pour rien parce que ces médailles, ces trophées représente quelque chose que je ne veux plus être aujourd'hui. Et alors que je regardais cette interview, je disais, waouh, avec l'âge, la maturité, en se posant les vraies questions, il disait, oui, quand j'étais jeune, j'essayais de chercher ça, mais en fait, j'ai saigné, j'ai comme perdu des années pour quelque chose qui ne représente rien. Et ses priorités ont changé. Je priais pour Mike Tyson, je me disais, s'il pouvait rencontrer Jésus, celui qui change sa vie, pas seulement les priorités, mais son éternité, la destinée de ne pouvoir savoir que peu importe mon passé, Dieu change toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on arrive et qu'on demande à Jésus, sauve-moi, pardonne-moi pour qui je suis, et maintenant aide-moi à marcher comme toi tu le veux, tout change. Dieu n'est pas un Dieu qui nous regarde de loin, qui nous juge et qui nous condamne. Au contraire, Jésus est venu sur cette terre pour dire, je ne suis pas là pour vous condamner, je suis là venu pour vous sauver. Et quand on regarde, Jésus est venu pour nous sauver, non seulement dans cette terre, que nous soyons libres de nos addictions, libres de notre péché, de notre culpabilité, de nos condamnations, tout ce que tu pèses, tout ce que tu as sur tes épaules en ce moment et qui est lourd à porter, Jésus l'a porté à la croix. Quand il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour l'humanité pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu sur cette terre et aussi de nous donner l'espoir que même après notre mort, nous le rejoindrons pour l'éternité. Et c'est là notre assurance, parce qu'on se pose tous la même question. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et où on va après notre mort? Et je sais que ce n'est pas une question où tout le monde se la pose en disant « qu'est-ce que toi tu en penses ?» Non, parce qu'on veut éviter ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les réponses. Il y a des gens à qui je parle, et des fois je fais des funérailles, des gens qui sont là, et puis tu les vois mal à l'aise parce qu'ils se disent « je ne veux pas penser à la mort ». Il y a quelqu'un qui est dans le cercueil et puis ils se disent, c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'ils pensent à la mort, à l'éternité. Et on essaye d'enfouir ces questions. Mais alors, en fait, on peut le lire dans la Bible. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pour ça qu'on a tous les mêmes questions existentielles. Parce qu'on n'est pas juste des erreurs d'une boule de terre qui a tourné comme ça. Et puis à un moment donné, la vie est apparue et puis on est une erreur du système et puis on repart comme... Non. Il faut qu'on comprenne que Dieu nous a créés pour être en relation avec nous. Lui, son plan parfait, ce n'était pas que la souffrance soit dans le monde, pas que la mort soit là. Au contraire, en fait, son plan de l'éternité, là où on va le rejoindre, c'était son plan de base. Quand il a créé l'humanité, il l'a créé sans péché, sans souffrance, sans mort, sans rien. Et il a voulu être en relation avec l'humanité. Comme des parents qui ont un enfant et qui se disent « on veut toujours être ensemble, on veut toujours ». Maintenant, l'homme et la femme, l'humanité, ont choisi, eux, de se détourner de la voie de Dieu et de choisir leur propre volonté. Ils ont désobéi à Dieu et Dieu les a laissés à leur libre choix. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un dit « ouais, mais pourquoi il ne les a pas juste changés et enlevés la souffrance ?» Non, parce que si Dieu force quelqu'un à faire, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est de donner le choix à l'autre, de l'aimer en retour, ou de ne pas l'aimer en retour. Si Dieu avait automatiquement dit, garde, on enlève tout ça et on refait, on serait des robots. Dieu nous a créés pour que nous soyons libres. Libres de le choisir. Et Dieu le dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie avant que tu vives. Mais tu as le choix de refuser son appel. Et c'est là où, si tu forces quelqu'un à t'aimer, est-ce que vraiment la personne t'aime? Non. Il faut que nous comprenions que Dieu nous a donné le choix et l'humanité s'est tournée. Et à partir de la désobéissance, c'est certain que le mal est entré dans le monde. Le péché a fait toute la souffrance que nous vivons aujourd'hui. Les maladies, la mort, le péché, la culpabilité, tout ça est une conséquence de la chute. Mais, ce qu'on a chanté ce matin, Dieu ne nous a pas laissé à notre humanité pécheresse. Non, il a dit, je suis comme un bon père, même si mon fils s'en va, je vais être celui qui va vouloir être en relation avec lui. Je veux le pardonner. Je veux qu'il puisse revenir de ses mauvaises voies et revenir dans le plan. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de tout l'Ancien Testament. On voit que Dieu choisit des hommes, des familles, un peuple pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle que Dieu, en fait, est amour et il veut sauver. Jusqu'à ce que Jésus arrive et qu'il dise « Je vais donner ma vie pour que vous puissiez tous recevoir le salut, tous recevoir le pardon. » Parce qu'il n'y en a pas un ici qui pourrait se tenir devant Dieu en disant « J'ai rien à me reprocher. » On le sait, même en essayant de devenir la meilleure version de nous-mêmes, l'orgueil grandit. Et là, au plus on essaye par nos propres forces d'atteindre notre salut et notre ciel et d'atteindre Dieu, au plus on tombe plus bas. Au plus l'orgueil prend de la place. Alors qu'en fait, Dieu il dit, comme on l'a entendu avec Alexandre, fais juste te laisser aimer. Ouvre ton cœur. Essaye de demander à Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Des fois, il y a des gens qui se disqualifient en disant, je suis tellement allé trop loin que ça ne sert plus à rien. Dieu ne peut rien faire avec moi. Dieu peut prendre de rien et créer quelque chose de beau. Alors, il peut prendre tes cendres, tous tes échecs, toute la vie que tu vis en ce moment, et il peut en faire quelque chose de glorieux. Et ceux qui l'ont vécu, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a fait ça en notre, dans notre cœur? Certains disent, oui, mais c'est parce que moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Comme si on était comme autosuffisant. Certaines personnes disent, ah, mais la foi, c'est comme une béquille psychologique. Tous les témoignages, une dizaine juste aujourd'hui, mais des centaines ici dans cette salle, des milliers à Nouvelle Vie, des millions sur la terre, planète, connaissent le Jésus qui a enlevé nos béquilles. Que celui qui était drogué n'a plus besoin, quand il rencontre Jésus, il n'a plus besoin de sa drogue pour être heureux. Il n'essaye plus d'éviter ce monde. Non, au contraire, il a trouvé la vraie paix, la vraie joie. Alors, Dieu ne devient pas sa béquille. Non, Dieu vient de le guérir et il enlève sa béquille. Celui qui était alcoolique, comme on l'a entendu ce matin à la première réunion, des gens qui disaient, j'étais complètement détruit, mon seul ami était l'alcool, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a restauré mon corps, mon cœur. Je n'ai plus eu besoin de l'alcool parce que j'avais Jésus. Alors, Jésus n'est pas une béquille, il enlève la béquille. Il guérit ceux qui sont en ce moment en train d'essayer de marcher par leur propre force, mais qu'ils essayent en se détruisant avec des addictions qui viennent complètement les emmener loin de là où ils veulent aller. Et ce n'est pas une condamnation aucunement, parce que si vous connaissiez mon témoignage, j'avais les mêmes patterns que tout le monde. Pourquoi? Parce que l'être humain naît dans le péché, mais est appelé à devenir une nouvelle personne, une nouvelle vie en Christ. Et lorsqu'on arrive à Jésus, il enlève tout notre passé. Les blessures deviennent des cicatrices. C'est pour ça qu'on est fiers de dire qui on était, parce que Jésus a réécrit une nouvelle page. C'est mon histoire, c'est là mon champ. Je n'ai pas honte de qui j'étais parce que je ne le suis plus. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On n'est pas parfait, on est en progression. Mais Dieu qui vit en nous par son Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on déclare Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur. Ce n'est pas juste qu'on vient à l'église une fois par semaine et puis on vit quelque chose. Non, il n'y a rien de magique dans ce lieu. C'est juste une communauté de croyants qui a le Saint-Esprit de Dieu en eux et qui viennent ici célébrer la bonne nouvelle que Jésus nous a sauvés et qu'il continue de travailler dans nos cœurs. Et parfois, on vient ici puis on proclame comme aujourd'hui la bonne nouvelle à peut-être des personnes qui savent, c'est la première fois qu'ils viennent à l'église. Mais il faut que tu comprennes que Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'essayer de devenir une meilleure personne. Non, tu ne pourras pas en fait. Parce que Dieu, Jésus t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es, mais Jésus t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Et c'est ce qu'on a proclamé, on n'a pas juste dit « Ah, ça y est, c'est fini ». Non, c'est « Merci, c'est une nouvelle vie qui commence ». Et à chaque jour, Dieu fait un travail incroyable dans nos cœurs. Ceux qui étaient incapables de pardonner parce qu'ils avaient vécu de l'abus, aujourd'hui témoignent que j'ai pu pardonner. Il y a même quelque chose de fort parce que j'étais comme dans la vengeance et maintenant je suis dans le relâchement. Je lui souhaite juste le bonheur, puis voici que ça se règle. Il y a des gens qui sont capables, par les forces de Dieu, de faire ce qu'ils étaient incapables de faire sans lui. Et c'est ça le témoignage qu'on dit. Aujourd'hui, alors qu'on proclame « c'est mon histoire pour ces dizaines aujourd'hui », ça peut être ton histoire également. Ne reste pas dans la foule loin en disant « Ah, ok, je suis un peu curieux de ça ». En fait, dans les évangiles, l'évangile de Luc, il y a une histoire où on nous parle que Jésus était, était dans son ministère en train de parler, de propager la bonne nouvelle. Et à chaque fois que Jésus était dans un lieu, il se passait quelque chose d'incroyable. Il annonçait la bonne nouvelle comme on le fait aujourd'hui. Il annonçait que Dieu n'était pas celui qui condamnait, mais qu'au contraire, qui sauvait, qui restaurait, qui ressuscitait celui qui était mort spirituel en quelqu'un qui vivait comme on l'a fait aujourd'hui. Il apportait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il nourrissait les pauvres, il allait faire quelque chose d'incroyable. Ce qui fait qu'il y a des foules qui étaient curieuses de le voir. Et à chaque fois que Jésus allait dans un endroit, il y a du monde qui venait en disant « Oh, il se passe quelque chose un peu. » Comme un événement qui est intéressant dans une ville où il ne se passe rien. Et là, on voit que Jésus arrive dans une ville qu'on appelle Jéricho. Et Jésus arrive, et là, tout le monde vient le voir. Et il y a un homme qu'on appelle Zachée dans la Bible. Zachée était un homme de petite taille. Mais c'était un homme qui était un des pires de la ville. C'est-à-dire qu'il était le chef des collecteurs de taxes. Chef de collecteurs des gens qui allaient frapper. Puis à l'époque, ce n'était pas les impôts comme on les a aujourd'hui avec Service Canada. Non, c'était des gens qui allaient et ils disaient, « Voici, tu me dois 30, mais tu me donnes 70. Parce que le 30, je vais le donner aux Romains. Et l'autre reste, je vais le prendre dans ma poche. » Donc, c'était des gens qui étaient complètement dans un scam financier et ils essayaient de prendre le plus aux plus pauvres. Donc, il y avait vraiment de l'injustice et Zachée était le chef de ces gens-là. Les commentateurs bibliques disent qu'il devait être un homme violent parce que c'était comme un peu la mafia. Il fallait arriver à extorquer les gens. Et alors qu'il était sans doute une des personnes du peuple, il avait renié son peuple et ses origines pour devenir dans le camp des Romains. Donc c'était un traître à la société, c'était quelqu'un que personne ne voulait se tenir avec parce qu'il était méchant, c'était un voleur, manipulateur. Et alors que lui, en tant que Jésus est dans la place à Jéricho, il dit « Ok, je suis un peu curieux, je vais aller voir. » Mais comme la foule était là et que la Bible dit que c'était un homme de petite taille, il n'arrivait pas à voir Jésus. Alors il a vu un arbre et il s'est dit, si je monte sur cet arbre, je vais être un petit peu caché par toutes les branches, je vais être au-dessus de la foule, et là je pourrai entendre ce que dit Jésus. Il était curieux. Et alors qu'il arrive, il monte sur cet arbre et caché partout, il espère voir Jésus passer. Jésus arrive et le texte nous dit, Jésus arrive et juste en dessous de cet arbre, il lève les yeux, il appelle Zachée par ton nom. Et voici ce que le texte nous dit, Luc 19:5, Zachée. « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et à ce moment-là, il n'y a personne qui voulait aller dans la maison de Zachée. C'est pour ça que la foule a fait comme « Hein ? Si toi, tu savais qui il est, tu ne serais jamais allé. » Mais en fait, Jésus savait qui il était. Il l'a appelé par son nom, Zachée. « Hâte-toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, je dois demeurer chez toi, dans ta maison. » Et c'est incroyable parce que personne ne voulait se tenir avec lui. Jésus n'aurait normalement jamais dû être à côté d'un gars aussi sale, aussi mauvais, aussi... Et en fait, Jésus était venu pour sauver les pécheurs, ceux qui se croyaient justes comme ceux qui savaient qu'ils étaient au fond. Alors Jésus va chez lui et à ce moment-là, il y a un miracle qui se fait. Zachée commence à voir que Jésus est amour, que Jésus ne le condamne pas, que la bonne nouvelle est aussi pour lui. Et alors que Zachée accepte ce cadeau, accepte Jésus, il commence à changer. Lui qui était un homme qui aimait l'argent, qui aimait la puissance, il commence à dire, voici ce que je vais faire maintenant. La moitié de mes biens, de mes possessions, je vais les donner aux pauvres. Et si j'ai floué quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois ce que je lui ai volé. Et là, il y a une générosité qui change. Lui qui était complètement dans un système vraiment de méchanceté, il devient quelqu'un de généreux qui va donner parce que Jésus venait de changer la situation. Jésus veut te dire exactement la même chose. Toi, je t'appelle par ton nom, je te connais. Si tu penses que c'est une coïncidence que tu arrives ici à l'église un dimanche matin et que tu t'assois, non, Dieu voulait que tu sois là pour entendre la bonne nouvelle de son amour. Et aujourd'hui, comme l'a dit Alexandre, laisse-toi aimer par Dieu. Parce que Dieu t'aime tellement d'un amour qui peut être même pas concevable dans ce monde. Dieu est la personne qui t'aime le plus dans ce monde. Même si toi-même, tu ne t'aimes pas, Jésus t'aime. Et il te dit, si tu viens à moi, tu connaîtras mon amour. Combien l'ont déjà vécu? Jésus lui dit, à la fin, il dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme, en parlant de lui, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Quelqu'un dira, « Mais moi, je ne me sens pas perdu. » En fait, sais-tu pourquoi tu es sur cette terre et après ta mort, où tu iras? Si tu n'arrives pas à répondre à ces deux questions, tu es perdu spirituellement. Parce que Jésus est venu pour nous donner la raison pour laquelle nous sommes ici sur cette terre. C'est que Dieu nous a créés pour être en relation avec nous, avec lui, comme des parents qui ont un enfant. Mais aussi, il ne veut pas seulement se limiter à cette terre, il veut que nous puissions le rejoindre dans l'éternité et être avec lui à tout jamais. Là où il n'y aura plus d'addiction, de stress, de pleurs, de peine, nous ne vivrons plus la souffrance parce qu'il nous a préparé une place pour l'éternité. Et je sais que pour certains qui viennent, peut-être comme Alexandre pour la première fois en t'entendant, en disant « Et moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un de spirituel, vraiment pas quelqu'un de la foi. » Mais je le dis parce que même si ça peut paraître fou, même le sacrifice de Jésus, parfois c'est vu comme une folie, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient toucher ton cœur et il frappe à la porte de ton cœur en disant « Ouvre-moi, laisse-toi aimer par Dieu. » Parce que son amour est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et c'est son amour qui va bannir tes peurs, qui va te délivrer. C'est son pardon qui va t'enlever une culpabilité que tu portes sur tes épaules alors que Jésus dit « Non, tu n'as plus à les porter, je les ai déjà portés à la croix. À la croix, j'ai porté sur moi pour te pardonner, alors tu n'as plus à marcher dans cette vie avec une condamnation sur tes épaules. Au contraire, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, même les pires d'entre nous. Et alors que je vais terminer dans quelques instants, on va terminer avec un chant qui s'appelle « Amazing Grace ». Combien connaissent ce chant? C'est un hymne centenaire depuis toujours. « Grâce infinie ». Et en fait, on connaît tous cette chanson, et alors que l'équipe va se préparer à la chanter, on va la chanter ensemble. Mais il y a une histoire derrière cette chanson. Cette chanson a été écrite au 18e siècle par un homme qu'on appelle John Newton. Et alors que John Newton a écrit ce chant, il a toute une histoire en arrière. Et comme on l'a dit tantôt, avant d'écrire ce chant, John Newton n'était vraiment pas quelqu'un de, de, qu'on se serait tenu avec lui. C'est un homme de valeur vraiment, vraiment basse. En fait, John Newton était un Britannique qui était un capitaine de bateau, mais pas n'importe quel bateau, un bateau esclavagiste. Donc, il prenait des hommes, des femmes, des enfants, il brisait des familles, il déportait des gens pour aller les amener en esclavage. Et il faisait ça de sa vie. Il était juste dans la traite humaine à l'époque où tout ça se faisait aux yeux de tous. Mais au fond de lui-même, alors que c'était quelqu'un qui avait une vie complètement dépravée, les historiens disent que c'est une personne d'une violence incroyable pour déraciner des gens et puis les amener pendant des années dans un bateau avec de la violence, les gens mouraient dans le bateau, tout ça. Il faut être à un tel point de rage, de colère, que lui se noyait dans l'alcool. Et à chaque fois que cet homme-là paraissait, les gens ne voulaient pas être proches de lui. Ou alors, comme pour Zachée, il voulait se servir de son argent ou de son influence pour pouvoir être avec lui et gagner les bonnes faveurs. Mais c'était un homme qui lui-même, sans doute, au fond de son cœur, se détestait. Et un jour, alors qu'il était sur un bateau, il avait grandi avec des valeurs chrétiennes, on pourrait dire. Et il commença à lire sur son bateau un ouvrage qui parlait du sacrifice de Jésus et comment Dieu nous aime. Et alors qu'il le lisait, il est entré dans une tempête, alors qu'il déplaçait des hommes d'un continent à un autre, dans une tempête, alors qu'il savait que c'était une tempête tellement forte qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il disait, là, je vais mourir à ce moment-là. Il s'est rappelé les lettres et les versets qu'il avait lus dans ce livre. Et il s'est rendu compte que le sacrifice de Jésus était aussi pour lui, pour que même si lui avait vécu une vie de destruction et détruit les autres, Jésus était mort pour le pardonner lui aussi. Et à ce moment-là, c'était fou pour lui, mais il a commencé à demander pardon à Jésus en disant « Mais je ne veux plus être celui que je suis. Et si je viens te rencontrer dans quelques instants, j'en suis désolé, je ne veux pas vivre cette vie-là. » Et alors que sur ce bateau-là, il a fait une prière, il a comme crié à Dieu « Sauve-moi !» Par un miracle, son bateau ne s'est pas échoué, au contraire. Il est venu, il est amarré, puis il a continué à vivre. Et à ce moment-là, il a changé de vie. Il avait accepté Jésus comme son sauveur. Il avait reconnu que Jésus était venu à la croix et il était mort injustement pour que nous, qui étions coupables devant Dieu, devenions justes à ses yeux. C'est là la justification, que Jésus a pris notre casier judiciaire. Et tout le mal que nous avions, il l'a pris sur lui et il nous a donné sa pureté devant Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et à ce moment-là, John Newton a complètement été transformé. Ce n'était pas juste une prière pour essayer d'être sauvé à cet instant-là, c'était un changement de vie. Il est devenu quelqu'un qui a lutté pour les droits des esclaves et pour la libération. Il a compris en lisant la parole que tous les êtres humains, peu importe leur couleur, peu importe leur ethnie, étaient devant Dieu des créatures merveilleuses. Et alors que lui était quelqu'un qui détruisait, il a été quelqu'un qui a maintenant protégé. Il a été dans la politique justement pour faire voter des lois pour l'abolition de l'esclavage. Et John Newton, un jour, a écrit ce chant « Grâce infinie ». Et les gens disent qu'il a écrit ce chant avec la mélodie que sans doute les esclaves, dans le fond des bateaux, chanter avec les rythmes. Il y avait comme des mélodies et des harmonies qui se faisaient et il a dû être imprégné par ça parce que quand il a écrit « Grâce infinie », ça sonnait, ça résonnait comme des chants des esclaves à l'époque. Mais voici les paroles de ce chant. « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. » Si Jésus a changé la vie de dizaines ici, de centaines juste dans ce lieu, de John Newton, pendant des millénaires, Jésus fait un travail incroyable de une personne à la fois. Il nous appelle par notre nom. Et aujourd'hui, je veux vraiment, alors qu'on termine ce message, je veux vraiment te dire que le même Jésus qui a appelé Zachée à descendre de son arbre, c'est le même Jésus qui t'appelle par ton nom aujourd'hui. Moi, je ne connais pas ton nom, mais Dieu t'appelle. Et en ce moment, le Saint-Esprit, si tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu vas l'entendre frapper en disant, « Je veux que tu reviennes, mon enfant. Mon fils, reviens à la maison. Ma fille, reviens à la maison. Ton père t'attend depuis toujours. Et aujourd'hui, tu es là, tu entends la bonne nouvelle et Dieu te dit, « Je t'aime tel que tu es. » Mais je t'aime tellement que je ne veux pas que tu restes tel que tu es. Viens ici et que ton ancienne vie soit finie, que tes addictions t'en soient libérées, que tu sois pardonné de tes péchés et que tu revives pour une nouvelle vie, une vie qui est glorieuse, une vie qui est pure, qui est saine, qui est dans la bonne voie parce que notre Dieu nous attend, notre Père nous attend. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait juste fermer nos yeux alors que je vais prier pour vous? Et dans un moment de révérence, j'aimerais prier peut-être pour quelqu'un aujourd'hui qui dit, ces témoignages-là, j'aimerais tellement pouvoir le dire. J'aimerais tellement pouvoir dire aussi, moi aussi, ma vie ancienne, tout ce qui m'a détruit, tout ce dont je ne suis pas fier ou la gloire que je regarde aujourd'hui comme j'ai saigné pour rien. Je voudrais qu'elle soit passée et que je recommence quelque chose à nouveau. Aujourd'hui, Dieu te tend la main en disant, si jamais tu veux repartir à zéro, je suis la personne. Si tu as des questions aujourd'hui, Jésus est la réponse. Si tu ne sais pas en ce moment où tu vas dans la vie et où va ton éternité, Jésus est le chemin. Donc si tu es avec lui et si lui est avec toi, tu ne te perdras jamais. Même après ta mort, Jésus t'emmènera près de lui. Jésus est le chemin et Jésus est la vérité. C'est-à-dire que tous les mensonges qui sont autour de toi en ce moment, des mensonges qui te disqualifient de dire, toi tu n'es pas assez droit pour arriver et avoir l'amour de Dieu. Non, n'écoute pas ça, parce que Jésus est la vérité qui te dit, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Même avant même ta naissance, je te connaissais. Et j'avais des plans de bonheur et non pas de malheur pour toi. J'ai donné ma vie pour que tu puisses être racheté, pour que tu ne vives plus avec une condamnation sur les épaules, mais que tu vives avec la liberté. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Aujourd'hui, il y a peut-être des personnes, comme à la première réunion, des gens qui sont venus me voir à la fin et on me dit, moi, j'ai des pensées suicidaires en ce moment. Je te le dis, Jésus est la vie. Et quand tu lui donnes ce qui te détruit en ce moment, il te donne l'espoir. Il y a la lumière qui arrive dans tes ténèbres. Il y a quelque chose de spirituel qui se fait. Je le sais qu'au Québec, en ce moment, notre société n'est pas ouverte au côté spirituel. Ou des fois, elle est ouverte à tout et n'importe quoi. Alors que Jésus est celui qui est la réponse à toutes nos questions. Il faut juste que tu te laisses être aimé par notre Sauveur. Et aujourd'hui, j'aimerais, alors que tous les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel à peut-être quelqu'un qui dirait, moi aujourd'hui, je voudrais cette vie. J'ai encore plein de questions, je suis au début de ma foi, comme Alexandre, je ne suis pas quelqu'un de l'Église, mais en même temps, je le sens que j'ai besoin de ça. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à revenir à la maison. Et si tu dis oui, je suis prêt à reconnaître que je ne suis pas parfait, que j'ai des fautes sur lesquelles je dois me faire pardonner devant Dieu. Le pardon est aujourd'hui disponible. Jésus dit, aujourd'hui même, je veux venir habiter dans ta maison, dans ton cœur. Tu as juste une chose à faire, c'est de m'accueillir. C'est de me reconnaître comme le Sauveur qui est mort à ta place. Et c'est de dire maintenant, je veux te suivre comme mon Seigneur. Dirige ma vie.